Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 14h à Kigali. Bienvenue à notre journal. Le Rwanda a annoncé ce mardi avoir expulsé un missionnaire évangélique américain dont l'église et la radio avaient été interdits en 2018 en raison notamment de ses propos sur les femmes. Le pasteur Greg Schouf les avait qualifiés de démons et de prostituées. Le missionnaire américain a été expulsé vers les États-Unis lundi soir, peu après son arrestation avec un de ses fils qui a été, lui, remis en liberté, a déclaré François Régis Gatarayia, directeur général des services d'immigration du Rwanda. Selon le haut responsable rwandais, Greg Schouf a dû quitter le pays parce que son permis de travail avait expiré et que Kigali estimait maintenant qu'il n'y avait plus de raison qu'il reste au Rwanda, vu que son église et sa radio avaient été fermées dans le cadre d'une mesure de fermeture de plus de 700 sectes évangéliques. Le missionnaire américain et son fils avaient été appréhendés hier au début d'une conférence de presse, au cours de laquelle le pasteur entendait dénoncer ce qu'il a appelé les pratiques païennes du gouvernement rwandais. Greg Schouf était au Rwanda depuis 2003. République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi se dit prêt, je cite, à mourir pour la paix dans l'est de son pays en proie à l'insécurité en raison des activités des groupes armés depuis 25 ans. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays, a déclaré le chef de l'État congolais lundi lors de rassemblements publics à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Politique au Cameroun maintenant, le président Paul Biya a amorcé une détente dans le pays. La plus importante recommandation du récent grand dialogue national qui a eu lieu la semaine dernière à Yaoundé est la mise en place d'un statut spécial pour les régions anglophones, leur concédant un peu plus d'autonomie politique et financière. Monsieur Biya a également ordonné la remise en liberté des principaux responsables de l'opposition, dont Maurice Kamto, leader du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Je crois que le président, libérant ses prisonniers politiques et proposant un dialogue, je crois qu'il a décidé qu'il ne peut pas gagner par la force des armes. Il ne peut pas vaincre les séparatistes ou les autres anglophones. Donc ça, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, je crois qu'en libérant M. Kamto, qui est francophone, il a reconnu qu'il y a des francophones qui sont marginalisés, juste comme les anglophones. Et s'il continue sur la même route, il risque d'avoir le même problème dans les régions francophones qu'il a dans les régions anglophones.
Les réactions n'ont pas tardé. Washington salue une étape constructive vers la réduction des tensions politiques. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui encouragé le Cameroun à continuer à adopter davantage de mesures de confiance et de réconciliation. C'est ce qu'il va faire d'après vous?
Oh, j'espère. Oui, non, je crois qu'il a décidé qu'il faut continuer sur cette route vers la paix, parce qu'autrement, il sera en grande difficulté. Il risque d'avoir des grosses difficultés dans le pays francophone autant que dans le pays anglophone. Et je crois qu'il cherche un médiateur maintenant. Je crois qu'il y a des Suisses qui ont proposé. À mon avis, les États-Unis sont en meilleure position pour être neutres et donner une médiation.
La plus importante recommandation du Grand Dialogue National concerne le statut spécial pour les deux régions anglophones. Concrètement, ce statut, que va-t-il changer dans ces régions et va-t-il dénouer le conflit meurtrier qui sévit depuis deux ans?
Avant 1972, les régions anglophones étaient 90% indépendantes. Ils avaient leur parlement, ils avaient beaucoup de choses. La seule chose qu'ils partageaient avec Yaoundé, c'était l'armée, la monnaie, la défense, etc. Et ils ont voté pour ça en 1962, sous le mandat des Nations Unies. Quand Yaoundé a fait un référendum pour écraser cette situation, il était illégal, à mon avis. À mon avis, la meilleure solution, c'est de retourner à la fédération qui existait avant 1972.
Mais les indépendantistes, eux, rejettent catégoriquement ces conclusions et parlent d'enfumage. Que va-t-il se passer d'après vous?
Oh, je crois qu'ils ne sont pas en majorité. Ils font beaucoup de bruit, je le comprends, mais ils ne sont pas en majorité. Et ils ne réfléchissent pas. qu'est-ce que nous allons faire si nous sommes indépendants? Est-ce qu'on va payer la défense? Yaoundé ne va pas nous défendre. Est-ce que nous aurons assez d'argent pour tous les bénéfices que la population a besoin? Donc, il faut réfléchir. Ils n'auront pas le pétrole qui est dans la mer à côté. Ils n'auront pas ça. Il ne faut pas se faire des illusions. Donc, je crois qu'il faut réfléchir. Est-ce que c'est viable d'être indépendant? Je crois qu'ils vont décider que ce n'est pas viable. Et il faut penser à une solution ensemble, rester ensemble avec les francophones, mais avec une certaine autonomie.
L'ancien diplomate américain Herman Cohen, joint ici à Washington.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La lutte contre les djihadistes au Mali maintenant, alourdissement du bilan de la récente attaque contre le camp de Boulkessi dans le centre du pays. On estime maintenant à 40 le nombre de militaires maliens tués, et ce après la découverte des corps de deux autres soldats. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Camp Fort 11 de Boulkessi, dans les ratissages de son périmètre immédiat, hier, les corps de deux soldats maliens morts ont été découverts, ce qui porte à 40 le nombre de militaires tués. Ils ont été inhumés sur place. Avant ces ratissages de la force spéciale, la libération du camp de Boulkessi a été possible grâce à une coordination des efforts entre les FAMA et les forces étrangères. Général Abdraman Babi, chef d'état-major général adjoint de l'armée de terre.
Et dire que dans le cadre de notre action de lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes, l'opération Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, nous allons continuer à travailler ensemble pour effectivement neutraliser les groupes terroristes sur le territoire. Les opérations vont se poursuivre dans le cadre de l'opération Dambé pour rechercher les ennemis par rapport à des endroits d'intérêt qui sont déjà identifiés et qui sont en cours.
Les opérations continuent. L'armée malienne a l'intention de rester à Boulkessi et faire tout pour mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires. Il est à signaler que les FAMA ont essuyé leur plus grande perte depuis des années dans les des attaques menées par des djihadistes le 30 septembre et le 1er octobre à Boulkessi et Mondoro, près de la frontière de Burkina Faso. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Afrique du Nord, en Algérie, la justice multiplie les poursuites contre des journalistes et des militants du mouvement de contestation, ce que dénoncent des ONG citoyennes et de défense des droits de l'homme, Irénée Hermanoumbo.
Journaliste indépendant et militant de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Saïd Boudour a comparu hier devant le parquet d'Oran à l'ouest d'Alger pour un écrit sur Facebook. 5 militants du rassemblement Action Jeunesse ont été placés dimanche en détention provisoire, a dénoncé Abdelahab Fersaoui, président de cette association citoyenne. Ils sont inculpés d'incitation à attroupement et d'atteinte à l'intégrité et l'unité du territoire, passible de 10 ans de prison, a-t-il précisé. Mais pour la défense, le dossier est vide, c'est un procès purement politique. Selon un de leurs avocats, Maître Abdellah Kamela, les 5 militants ont été arrêtés vendredi dans un café après la 33e manifestation hebdomadaire d'affilée. Pour Saïd Assali, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, la justice distribue les chefs d'inculpation à tort et à travers sur la base d'interprétation. Le parquet d'Alger a quant à lui soutenu que les dossiers traités ne sont pas d'ordre politique et qu'aucun détenu politique n'est incarcéré dans sa juridiction.
Et pour terminer ici aux États-Unis, les élus démocrates impliqués dans l'enquête en vue de l'impeachment, la mise en accusation du président Donald Trump, ont demandé lundi au Pentagone et aux responsables budgétaires de la Maison-Blanche de leur livrer des documents concernant l'affaire ukrainienne. Pour sa part, Donald Trump continue de qualifier cette nouvelle enquête de chasse aux sorcières.
Les présidents démocrates des trois commissions qui enquêtent à la Chambre des représentants indiquent dans un communiqué que ces documents qu'ils veulent recevoir d'ici le 15 octobre prochain sont nécessaires pour connaître les raisons de la décision de la Maison-Blanche de suspendre une aide militaire pour l'Ukraine. L'opposition démocrate accuse le président américain d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour des informations ayant trait au Biden. Quant au président Trump, il maintient qu'il avait l'obligation d'examiner toute corruption possible ou probable pour justifier les demandes adressées à l'Ukraine, mais aussi à la Chine, pour qu'elles enquêtent sur Joe Biden et sur son fils Hunter, qui a fait des affaires dans ces deux pays. Le locataire de la Maison-Blanche a également accusé la chef de file démocrate Nancy Pelosi de trahison. Les trois commissions parlementaires prévoient de mener de nouvelles auditions à partir de ce mardi.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.